Got gun, Hulk left slot.
Dixie left, Key left.
Mercedes, wide chip, Ricky.
Bieber left, 75, Katie, Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead, goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 469 du podcast Touchdown Actual. En Mathéi, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine. Raphaël Masmejean est là, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël, on va prévenir les auditeurs, on va être totalement transparent parce que ça pourrait se voir. Nous enregistrons cette émission avec une journée d'avance, fête de Noël, planning, tout ça oblige. Donc, il se peut que certains des joueurs dont nous parlons, peut-être la plupart, peut-être tous, soient sur la liste Covid au moment où vous nous entendez. Bon, on espère que ce sera le minimum possible, mais en effet, on enregistre avec quasiment 24 heures d'avance sur la mise en ligne. Donc, il est possible qu'il y ait un peu de changement de ce côté-là. On rappelle d'ailleurs que au moment où on enregistre le matin même, la NFL a changé les règles. La quarantaine pour les joueurs contrôlés positifs est désormais passée de 10 à 5 jours, y compris pour les joueurs non vaccinés. Donc, ça peut changer quelques petites choses. Par contre, c'est 5 jours obligatoires si tu es non vacciné et 5 jours avec possibilité d'en sortir si contrôle négatif ou plus de symptômes.
T'es vacciné.
Ou plus de contagiosité, pardon, si tu es vacciné. Voilà. Quels coachs sont en danger de perdre leur place? C'est le grand thème de l'émission du jour. Comment les Titans et les Dolphins font-ils pour être encore dans la course aux playoffs? Ce sera l'affiche de la semaine. Et puis, les pronos de la semaine 17, les meilleurs codes, vous avez l'habitude, c'est l'heure de la preview.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Chaque année, le lundi qui suit la saison régulière est baptisé le Black Monday. Les têtes des coachs tombent, mais cette année, la NFL a annoncé au mois d'octobre que les entretiens d'embauche seront disponibles pendant les deux dernières semaines de la saison régulière. Ça vient de commencer, donc la machine pourrait s'emballer un peu plus rapidement. On va faire le point sur les coachs en danger, mais je peux déjà vous dire qu'au niveau des recherches, les Jaguars ont largement lancé les choses puisqu'ils ont demandé des entretiens d'embauche à 8 personnes. Il y en a deux qui sont libres, c'est Jim Caldwell et Doug Peterson, et après il y a des coordinateurs en fonction dans tous les sens: Matt Eberflus, Todd Bowles, Byron Leftwich notamment,
tous les coordinateurs à la mode, on peut dire ça comme ça,
voilà. sauf Eric Bieniemy qui n'est visiblement moins à la mode cette année. Je voulais me les mettre sous les yeux: Kellen Moore, Todd Bowles, Doug Peterson, Byron Leftwich, Nathaniel Hackett, le coordinateur offensif des Packers, Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys, Matt Eberflus, Jim Caldwell. Voilà, c'est la liste des cibles du côté de Jacksonville. Et il pourrait aussi, je crois que c'était Aaron Wilson qui a rapporté ça, cibler Leslie Frazier, tu sais, l'ancien
coordinateur Vikings.
Voilà.
Il était passé chez les Vikings, ouais.
Et il a été coach principal des Bills, je crois.
Peut-être qu'il a fait principal des Bills aussi, ouais.
Je crois que c'était le principal avant l'arrivée de McDermott. Hein.
Ouais, possible.
Donc voilà, il y a quelques noms comme ça qui vont revenir d'entre les morts. Hein. Il a été le coordinateur défensif. Ah non, il a pas été principal. Si, head coach des Vikings. Non, t'as raison, pardon. C'était les Vikings, 2011-2013. Et après, il a été coordinateur défensif et à d'autres postes. Bref, on a donc des coachs en danger. On parlera évidemment des recrutements dans les semaines à venir. Et des candidats, on aura une meilleure idée probablement d'ici une ou deux semaines. Donc, on l'a dit, plusieurs catégories pour les coachs. J'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça qui vont être virés. Juste déjà une impression globale, Raphaël.
Ouais, je te rejoins aussi. On n'a pas, bon, à part les quelques coachs qu'on va lister, mais effectivement, j'ai la même impression. Et je pense que moi, ça vient de l'homogénéité qu'il y a cette saison en NFL. Où on a l'impression que toutes les équipes sont un peu capables de battre tout le monde. Il y a qu'à voir le bilan des équipes. On a un nombre incroyable d'équipes qui peuvent encore aller en play-off. Donc forcément, ça donne le sentiment qu'il y a peu de ratés cette saison et peu de catastrophes industrielles et donc peu de coachs à tout de suite mettre à la porte. Donc je pense que ça joue en fait.
En fait, la catastrophe industrielle, on a dit, c'était Jacksonville, Urban Meyer, il est déjà dehors.
Voilà.
John Gruden, c'était pas prévu, mais il est dehors. Et en fait, dans les grillés à quasiment 100% dehors, moi j'ai l'impression qu'il n'y a que Matt Nagy.
Ouais, oui, t'as raison, il y a l'air d'avoir que Matt Nagy à l'heure actuelle, parce que la rumeur était déjà très forte au moment de Thanksgiving, il a sauvé sa peau malgré tout. Mais et effectivement, c'est vrai que Chicago est jamais ridicule, ça dépend dans quel secteur de jeu, mais donc je pense que c'est ça qui fait qu'il est jamais qu'il est pas viré en cours de saison, c'est que son équipe est pas catastrophique à ce point-là, mais après quand tu vois ce qu'il était censé développer le jeu offensif et il enchaîne les quarterbacks et ça se passe pas bien, il y a un moment je vois pas comment Matt Nagy peut rester une saison de plus. Pour moi ça me paraît assez clair, mais
c'est presque une étrangeté de statistique, hein, d'ailleurs, parce qu'il est dans sa quatrième saison, 33 victoires, 30 défaites, 2 qualifications en play-off. Le papier, il n'est pas déshonorant.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit sur le papier. Ces équipes ont jamais été déshonorantes. Je pense qu'il a quand même été beaucoup porté par ses défenses. Hein, ces défenses qui ont souvent permis de masquer en termes de bilan global de l'équipe, qui ont permis de masquer le tout. Après voilà, maintenant la question pour les propriétaires et GM de Chicago maintenant, c'est est-ce que il faut imposer à Matt Nagy un vrai coordinateur offensif qui va changer les choses et qui peut faire rebondir l'attaque, et tu pars du principe que Matt Nagy finalement en tant que comme gestionnaire de groupe c'est pas si mauvais et tu peux rester là-dedans, soit tu considères qu'il arrivera pas à s'entendre avec un coordinateur offensif parce qu'il se pense très bon coordinateur offensif, ce qu'il n'est pas, et donc dans ce cas-là, tu vires tout et tu recommences, quoi.
Alors voilà, moi j'allais te donner ce qui va être mon argument massue pour quelques-uns, à mon avis, c'est que s'il a jamais été vraiment considéré comme une réussite, malgré ce bilan statistique honnête, c'est que pour moi, il a pas réussi sur ce qui est censé être son quelle horreur, j'allais faire un anglicisme terrible, j'allais dire son core business, comme on dit sur LinkedIn. Non, mais sur son cœur de métier, voilà, j'allais dire, c'est sur ses points forts à lui. C'est-à-dire qu'on nous l'a présenté comme un coach offensif, et c'est ce que tu dis, tu vois, est-ce qu'il va accepter un coordinateur offensif? En théorie, si déjà il n'a pas été capable d'en trouver un qui correspond à ce que lui voulait faire ou à faire lui ce qu'il voulait faire, en 4 ans, c'est là où se trouve l'échec. Et comme la priorité, c'est de trouver une identité offensive autour de Justin Fields, qu'il n'a pas été capable de le faire, bah, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est là que son licenciement devient justifié. La défense, elle est là. Il faut trouver un mec qui va savoir construire offensivement autour de Justin Fields. Pas forcément un coach dit offensif, d'ailleurs, mais un bon gestionnaire qui acceptera de trouver un bon coordinateur offensif.
Oui, c'est ça, je te rejoins. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, où on voit qu'il a du mal à travailler avec un coordinateur offensif, c'est finalement quand il y a eu cette saison et un petit peu l'an dernier, quand il confiait quelquefois le play calling à Bill Lazor, son coordinateur offensif. Dans les stats, chacun des matchs où Bill Lazor est au play calling, l'attaque de Chicago gagne plus de yards, marque plus de points, et à chaque fois, Matt Nagy reprend le truc. Ouais. Donc, il n'arrive pas à se détacher de ça, et à partir de là, il en est responsable. Donc, effectivement, Chicago, depuis 4 ans, est parmi les pires. Annuellement, ils sont dans les 10 pires attaques de la ligue. Donc, à un moment, merci, au revoir. Et comme tu dis, la priorité, c'est Justin Fields. Il faut trouver quelqu'un qui va le bonifier. Donc.
Dans le deuxième groupe, donc je pense qu'on est plutôt d'accord pour Matt Nagy. Dans le deuxième groupe, là, il y en a beaucoup pour moi, c'est ils se battent encore pour leur place. Et ce n'est pas très clair. Mike Zimmer, David Culley, Matt Rhule, Vic Fangio. On va commencer par... alors, est-ce que déjà, ça te va comme...
Oui, c'est... Effectivement, c'est ceux qui, pour moi, se battent pour leur place, effectivement, ouais.
Alors, on va commencer par Mike Zimmer. 71 victoires, 55 défaites, 1 nul. 8 ans de fonction, 3 qualifications en play-off. Malgré un effectif quand même souvent très correct au final. Et c'est aussi pour ça que ça a l'air d'être le moment pour lui. Et là, on est dans une autre problématique. C'est de celle de l'équipe qui change de coach, mais qui va devoir trouver très, très fort parce qu'il faut passer un palier au-dessus avec un bon effectif.
C'est ça. C'est peut-être la situation la plus dure pour une équipe. Celle où tu te rends compte que le coach que tu as à l'heure actuelle a permis de créer des bases solides, a créé une identité, un état d'esprit, mais où tu as le sentiment que pour passer un palier, il faut quelque chose, un nouveau coach. Le problème, c'est trouver ce nouveau coach. Et j'ai peur, c'est pour ça que je ne sais pas si Zimmer va partir ou pas, c'est que j'ai peur que les propriétaires des Vikings aient un peu cette peur de ne pas trouver meilleur, en fait, et peur de se lancer. Parce que, on va dire, dans les profils connus sur le marché, je ne vois pas qui peuvent avoir de meilleur dans les connus. Donc, ça veut dire, pour moi, ça veut dire que tu te lances dans un pari. Tu fais un pari sur un jeune coach, ou alors un coach plus expérimenté, mais qui n'a pas encore eu de profil. d'head coach, enfin qui a pas eu encore de poste d'head coach. Donc c'est vrai que pour Minnesota, c'est potentiellement un petit saut dans l'inconnu. Maintenant, je pense que Minnesota, ça va faire 8 ans qu'ils stagnent à peu près au même niveau. Il faut le tenter maintenant, en fait.
Ouais, moi je pense aussi, ça me rappelle, toute proportion gardée, mais tu vois, c'est quand tu as dit se lancer dans l'inconnu que ça m'a fait tiquer. Les Rams, quand ils passent des années 7-9 avec Jeff Fisher à Sean McVay, qui est un saut dans l'inconnu, c'est un trentenaire jeune et tout ça. Donc ça, c'est le meilleur scénario possible pour eux. Après, des Sean McVay, il n'y en a pas à tous les coins de rue en NFL. Donc, dans cet esprit-là, bah oui, les jeunes coordinateurs, je reprends la liste des Jaguars.
Regarde Miami, quand ils se lancent sur Adam Gaze, c'est un saut dans l'inconnu, c'est un jeune coordinateur prometteur, et puis derrière, c'est bon.
J'étais en train de reprendre la liste des Jaguars, parce que ce sera un bon indicateur, vu qu'il y a un peu tous les mecs à la mode, mais là, du coup, t'es dans du Kellen Moore ou Byron Leftwich, par exemple.
Ouais, oui, complètement, ouais, c'est ça.
Donc, je suis d'accord avec toi, gros doute pour Mike Zimmer, j'ai aucune idée de ce qui va se passer.
Surtout que Minnesota n'est pas la franchise la plus leurs propriétaires sont pas les plus comment dire les plus je vais pas dire qu'ils sont conservateurs, mais c'est pas l'équipe qui bouge le plus non plus, qui licencie le plus à tour de bras, c'est pas des Sadiq Khan, n'importe quoi, c'est le maire de Londres, ça, mais
ah oui, non, c'est Shad Khan.
C'est pas Shad Khan qui a un peu plus la bougeotte, on va dire, sur les gens qui l'entourent. Donc je m'interroge. Je sais pas s'ils vont oser le faire. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut le faire.
Ouais.
Mais
je pense qu'il faut viser. Il faut viser les étoiles.
Voilà. Tu peux pas te contenter.
Exactement. Non, mais quand t'as un effectif comme ça, je pense qu'il faut y aller. Autre incertitude, c'est Vic Fangio. Ça fait 3 ans. Il est à 19 victoires, 28 défaites. Jamais plus de 7 victoires. Peut-être un peu plus cette année. Et en fait, là, je suis partagé, tu vois, parce que je te donnais mon argument tout à l'heure, il faut qu'il soit bon dans ce qu'il fait. Vic Fangio, c'est un coach défensif, sa défense est excellente.
Oui.
Donc, il tient finalement un groupe sur ses forces, mais ils n'ont pas de quarterback ou de très bon ou de franchise quarterback depuis qu'il est là. Donc, au final, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher, tu vois?
C'est vrai que Denver, ça ressemble un peu à cette équipe. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais où tu te dis, avec un vrai quarterback, ils sont proches. Alors, je suis pas sûr de gagner le Super Bowl, mais en tout cas, c'est une équipe de playoff avec un très bon quarterback. Je veux dire, demain, tu mets Aaron Rodgers à Denver. Il manque pas grand-chose à cette équipe pour aller loin, tu vois. Je trouve que, voilà, ils sont à ça d'être dans les très, très bonnes équipes. Comme tu dis, Fangio maîtrise bien la défense. Globalement, Denver, pareil. Pour moi, c'est important toujours l'image que l'équipe renvoie et le fait qu'elle soit jamais ridicule, même quand elle perd des matchs, tout ça. Et pour moi, Denver, c'est ça. Il n'y a pas de catastrophe industrielle. Ils perdent des matchs, mais voilà, comme plein d'équipes moyennes comme eux en perdent. Et donc, je te rejoindrai. Je suis pas certain que la bonne solution soit de le virer tout de suite, sachant que son équipe a jamais su lui donner le quarterback. Après, là où peut-être je pourrais modérer, et c'est toujours la petite difficulté en NFL quand on n'est pas dans le cœur du réacteur, j'ai envie de dire, des équipes, c'est que quelle est la part de Fangio dans le choix des quarterbacks, par exemple, que lui impose son GM à l'intersaison, enfin, parce que si c'est Fangio qui décide de pas drafter de quarterback, d'aller sur Teddy Bridgewater, tu vois, pour moi il est aussi responsable.
Oui.
Si c'est son GM qui lui dit non, on part comme ça et toi tu coaches avec les joueurs que je te donne, bah déjà c'est encore une autre responsabilité.
Moi, si je partais du principe vraiment qu'il coachait ce qu'il a, tu vois, je trouve que, en fait, ça me dérange pas de le garder, parce que tu te dis, s'ils prennent un mec qui, pour le coup, bazarde un peu la défense, là, ils sont au fond, hein, de la FC West. Ils sont.
Ah oui. Ouais, s'ils perdent cette solidité défensive, ça devient très compliqué, ça, c'est certain.
Parce que, tu vois, en plus, sur les matchs où Bridgewater joue correctement, il gagne. Tu vois, il fait pas d'ânerie, c'est pas un coach qui se fait remarquer particulièrement par des trucs complètement délirants ou.
Ouais.
Ça me semble pas être un grand coach, mais c'est pas non plus un mec qui a plombé cette équipe, quoi.
Non, je crois pas. Après, du coup, ce qui peut lui être reproché aussi, quand même, malgré tout, c'est peut-être de pas trouver le bon coordinateur offensif qui est aussi capable d'améliorer tout ça. C'est correct, mais sans plus, tu vois, même quand il y a Teddy Bridgewater, c'est vrai qu'un coordinateur offensif peut-être un peu plus talentueux pourrait faire progresser ça. Mais oui, comme tu dis, je suis pas.
Moi, il me fait penser un peu à un Ron Rivera, tu vois.
Ouais.
Qui était à Carolina, par exemple, qui était en danger et puis qui a été au Super Bowl parce qu'il y a eu une bonne année de son quarterback, tu vois. Et donc, il y a un coach honnête, Tu vois,
Ouais,
c'est
je suis d'accord avec toi. Je suis pas persuadé que la solution ce soit de le virer, mais après, si tu penses à trouver, en fait, c'est ça, c'est toujours pareil. Donc, pour nous, c'est un peu dur à juger, mais si les propriétaires sont persuadés qu'il y a un coach meilleur et qu'ils peuvent l'avoir, bah,
Oui.
ça me choque pas de virer Fangio parce que je pense qu'il y a meilleur. Mais par contre, voilà, c'est vraiment, est-ce que tu.
C'est incertain. C'est incertain aussi.
Incertain, ouais.
J'aurais peut-être dû commencer par lui dans cette catégorie des incertains parce que c'est celui qui me semble être le plus proche de Matt Nagy et de se faire virer, c'est Matt Rhule. C'est seulement la fin de sa deuxième saison. Il a 10 victoires en 2 ans. Et surtout, moi, il a vraiment depuis une semaine ce syndrome du coach qui perd les pédales qu'on a souvent vu dans l'histoire du site, puisqu'on observe quand même les sorties presse des coachs, etc. Il y a du Chuck Pagano, il y a du Adam Gase dans ce qui se passe avec Matt Rhule depuis quelques jours. Et
Oui.
c'est horrible. Là, on parle même pas de terrain. Je sais que c'est horrible pour lui, mais en termes de com, il est en train de se perdre. De dire, il a fallu 7 ans à Jay-Z pour être repéré, devenir une star, machin. Enfin, ça marche à 1000%, mais personne ne le voit. Enfin, mec, t'as 5 victoires. Tu fais tourner tes quarterbacks sur Cam Newton et Sam Darnold. Enfin.
Je te rejoins complètement. Je pense que c'est lui le plus en danger. Le plus en danger. En tout cas, si j'étais moi propriétaire de Carolina, il serait à la porte à la fin de la saison, sans trop d'hésitation, avec le GM. Hein, parce que je
Ouais,
pense que des fois, faut
les
oublier qu'il y a
deux,
un
ouais.
duo et que le GM a pas beaucoup mieux géré cette histoire que lui. Mais comme tu dis, en plus d'un mauvais résultat, je vois ce que je trouve très inquiétant avec Carolina. C'est que je vois pas où en fait Matt Rhule veut en venir. Je vois pas ce qu'il fait, je vois pas ce qu'il construit. Je comprends pas ce choix d'avoir enlevé Teddy Bridgewater pour mettre un Sam Darnold, d'avoir fait sauter son coordinateur offensif Joe Brady en plein milieu de saison comme ça. Alors que oui, l'attaque était dans une phase creuse, mais il y avait McCaffrey qui était blessé. T'as vu les quarterbacks avec lequel, enfin, je veux dire, le
Mais
coordinateur offensif, on lui donne aussi Sam Darnold. Je vois pas ce qu'il pouvait faire de beaucoup. Enfin,
j'ai envie de te dire que Joe Brady, c'est un signe de plus, c'était infusible,
ouais,
du coup, il n'y en a
c'est
déjà
ça.
plus.
Et du coup, je trouve qu'un coach qui fait sauter son coordinateur offensif au bout d'un an en fusible, c'est jamais très bon signe quand même à ce point-là. Et comme tu dis, après tu rajoutes tout c'est un peu ce verbatim, cet à côté qui semble vriller. Oui, pour moi là, ça, Matt Rhule va avoir du mal à garder son poste parce que il y a rien qui va, on ne sait pas vraiment ce que sont ces Panthers, ce qu'ils valent et qui ils sont, ouais, tout simplement. Est-ce que c'est une bonne défense? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne attaque? Non.
Et puis, tu parlais des proprios des Vikings. David Tepper, le proprio de Carolina,
Carolina.
plus jeune, pas là depuis très longtemps. Moi, ça me fait plus penser, je ne le connais pas non plus, hein, je ne suis pas dans le cœur du réacteur, comme tu disais, mais ça me fait plus penser à Shad Khan, des mecs qui auront moins peur de prendre des décisions et d'aller vite. Gestionnaire de hedge fund, plus jeune, machin et tout, tu vois, côté plus business que Martha Ford et tout ça, quoi. Donc, à mon avis, ça peut dégager plus vite aussi. Donc moi je dirais que Matt Rhule, pour le coup, et c'est pour ça que je disais que j'aurais dû le mettre à la suite de Matt Nagy, je pense que ce sera le deuxième à prendre la porte.
Je pense aussi, ouais.
Ouais. Le dernier, c'était David Culley que j'ai mis là-dedans. Je ne vais pas refaire mon plaidoyer de l'émission de mardi, mais je l'inclus parce que Nick Caserio, le manager, puisque tu parlais des binômes, n'a pas voulu accorder sa confiance publiquement. Moi, je redis juste très rapidement ce que j'ai dit mardi. Il a gagné 4 matchs avec un des pires effectifs de la Ligue. Je ne vois pas pourquoi il ne le garderait pas.
Écoute, là-dessus, je te rejoins. Effectivement, il a le pire ou un des pires effectifs de la Ligue. On peut en débattre longtemps. Mais comme tu dis, il a gagné ses 4 matchs. Les Texans, il n'y a pas d'histoire d'à côté ou hors terrain avec les Texans.
Et pourtant, avec DeShaun Watson, il pourrait, hein.
Et j'ai presque même envie de te dire qu'il a fait oublier Deshaun Watson cette saison, ce qui n'était pas une mince affaire non plus. Et il a réussi à créer une espèce de bouclier de protection autour de son équipe, où finalement, bah, les Texans font leur saison et essayent de faire ce qu'ils peuvent faire de bien. Donc ouais, non, je suis d'accord que sur le papier, moi, je ne suis pas contre de donner. En fait, je pense qu'il va de pair avec Mills, leur quarterback. C'est
Mais oui.
lui et leur quarterback sont une potentielle bonne surprise. Autant continuer avec eux deux l'an prochain et voir comment ça tourne.
Mais c'est ça. En plus, il a quand même réussi à développer un mec du troisième tour qui joue de manière honnête. Donc,
Ouais, non, je te
donc
rejoins.
là, ce serait vraiment pure décision managériale,
Ouais, c'est
truc
ça.
interne, mayonnaise interne. Là, voilà. On voulait le mentionner pour ça. Catégorie à lui tout seul, le soi-disant en sécurité, selon ESPN, Joe Judge. Deuxième saison, 6 victoires l'an dernier, 4 cette année avec les Giants. Et encore une fois, binôme, c'est le manager Dave Gettleman qui devrait prendre la porte selon les rumeurs. mais il pourrait vouloir son propre coach, le nouveau manager. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
C'est ça.
Mais moi, j'ai du mal à voir c'est quoi l'identité des Giants depuis qu'il est là. À part les déclarations, toujours des
on cherche des méthodes compliquées.
Voilà. Et puis, c'est souvent les anciens assistants de Belichick, hein, mais c'est souvent, nous, notre identité, c'est de jouer dur et de jouer intelligemment et de minimiser les erreurs, etc. Mais bon, en vrai, ça, tout le monde veut le faire ou tout le monde doit le faire. Donc, j'ai du mal à voir. Évidemment, le GM, il doit prendre la porte.
Ouais, ah bah là, c'est...
Quand on voit la tronche de l'effectif, pas de problème. Mais Judge, c'est dur à juger, du coup.
Et, écoute,
sans mauvais jeu de mots.
Moi, je pense qu'il doit prendre la porte aussi. Et peut-être que s'il venait à prendre la porte, ça serait pas que de sa faute et qu'il serait aussi un peu une victime collatérale des erreurs du GM. Mais je pense, malgré tout, comme tu le dis, qu'en 2 ans, on n'a pas vu de progrès à New York dans aucun secteur de jeu. Là, il y a encore, sur les réseaux sociaux, quand tu vois par rapport au match de dimanche, il y avait des analystes qui décortiquaient certains snaps en attaque, notamment des Giants, où les receveurs ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Il y a pas de bloc. Enfin, les mecs ont l'air d'arriver sur le terrain et pas préparés. Enfin, pour moi, il y a quand même une espèce de situation où t'as l'impression qu'il y a rien qui va, rien n'est préparé, rien n'est vraiment correct. Donc, bon, moi, je pense qu'il devrait prendre la porte aussi et que New York devrait recommencer à zéro. Mais le problème à New York, c'est je pense que ça va au-delà du GM. Je pense que ce sont leurs propriétaires qui sont très pas trop dans l'air du temps. Bref, passons.
En tout cas, pour l'instant, il serait en sécurité. Et puis le dernier, l'heure de la retraite, point d'interrogation. Pete Carroll, c'est un cas à part. 12 saisons, un titre, 117 victoires, 73 défaites, 1 nul, 10 victoires, 8 défaites en playoff. Mais il a 70 ans. C'est le plus vieux coach de la NFL. Alors, c'est pas pour faire du jeunisme. Mais voilà, alors est-ce qu'on en fait trop parce que c'est la première fois depuis 2012 qu'il gagne pas au moins 9 matchs, donc on pourrait se dire bon bah voilà, cette saison c'est l'anomalie, il y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Ou alors est-ce que finalement cette saison c'est le révélateur surtout de choses qui étaient quand même latentes, je trouve, depuis des années.
C'est-à-dire qu'il
vivait, je trouve, malgré des lacunes depuis des années, quoi.
C'est ça, je pense que comme tu dis, c'est pour moi c'est fin de cycle, c'est une équipe où ça a fini par où toutes les failles ont fini par exploser parce que celui qui en cachait beaucoup, Russell Wilson, n'est pas au niveau cette saison et tout d'un coup bah ça devient beaucoup plus criant et visible que l'équipe n'a jamais su vraiment améliorer sa ligne offensive, que depuis la Legion of Boom, l'équipe n'a pas su drafter de nouveaux grands défenseurs. Enfin, je veux dire, c'est quel est le dernier grand défenseur drafté par Seattle?
Et puis là, on parle de GM depuis tout à l'heure. C'est vrai que Carroll, il pourrait ne pas partir seul, hein, pour le coup.
Hein. Oui, non, avec Schneider, ça pourrait être un duo commun qui part et on fait place. De toute façon, honnêtement, encore une fois, c'est pareil, c'est toujours le même truc. C'est je suis propriétaire de Seattle. Celui que je fais venir dans mon bureau en premier, c'est Russell Wilson et je lui demande ce qu'il veut. Parce que les coachs sont très importants, mais je pense que tu as plus de chances de gagner avec Russell Wilson et un nouveau coach qu'avec Pete Carroll, mais sans Russell Wilson. Donc, s'il faut choisir qui tu prends, pour moi, c'est assez clair. Et à partir de là, bon,
en tout cas, ce sera un des suspens aussi. Pronostic, qui sera licencié?
Eh ben, Nagy, Matt Rhule et je pense que Joe Judge va y passer aussi.
Ah ouais?
Ouais, je...
Moi, je vais rester sur Nagy et Rhule, tiens, tu vois.
Et juste, je me permets de le rajouter, on est un peu en retard en termes de délai, je crois, mais est-ce que Mike Tomlin, si Ben Roethlisberger arrête vraiment, est-ce que Tomlin pourrait pas bouger de Pittsburgh, tu penses pas?
Ouais, franchement, je pense pas. C'est quand même, ce serait sa première saison négative en carrière à Tomlin, hein, si il termine en négatif. Je pense quand même qu'il a le bénéfice du doute.
Je me demandais si lui-même, il pourrait pas.
Ah, de lui-même?
Ouais, de lui-même, tu vois. Aller ailleurs. Je sais pas. Une nouvelle expo.
Je pense pas qu'il soit lié à Rhodes. C'est une réflexion. À ce point, ouais. Non, ça me. Mais, et du coup, on l'a pas dit. Carroll, dans un scénario idéal, ce serait bien, moi, je trouve, une retraite avec une belle célébration ou quelque chose comme ça,
oui,
plutôt qu'un truc où il se retrouve
forcé
à partir.
Ah, clairement. Ah ouais, j'espère, j'espère aussi pour lui, ouais.
Parce que ce serait moche quand même qu'il se retrouve, qu'il s'accroche trop et qu'il se retrouve à être débarqué, par exemple.
Ouais. Tom Coughlin, ça n'a pas très bien fini à New York. Hein. Ça avait été un peu parti en eau de boudin. Et c'est dommage quand un coach amène un Super Bowl que ça se finisse comme ça.
Ouais. Par exemple, faut
essayer de trouver une bonne sortie. Ouais.
Et je ne suis pas trop rassuré de ce côté-là parce que justement, il a dit qu'il fallait juste réarmer et pas reconstruire en interview il n'y a pas longtemps. Et parce que tu vois, s'il disait faut reconstruire et moi j'ai plus le temps et l'envie, et voilà, ce serait plus. Bon, je lui espère en tout cas. Allez, on passe à l'affiche. Gros dossier des coachs, en effet. On va passer à l'affiche de la semaine. C'est les Titans qui reçoivent les Dolphins à 19h ce dimanche. Les Titans devraient être en playoff, a priori, mathématiquement. En tout cas, après une, on va dire, j'allais dire une victoire sur deux matchs, ils y sont, mais même pas. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une des équipes dans la course perde. Enfin, voilà, il y a très peu de scénarios où ils y sont pas. Ouais. Les Dolphins, eux, se battent encore pour y être. Comment sont-ils encore là? C'est quand même la question qui peut se poser tant leur parcours a été atypique. On va les prendre un par un déjà. Est-ce que les Dolphins sont une bonne équipe, Raphaël? Parce qu'ils ont perdu 7 matchs de suite, ils ont gagné 7 matchs de suite. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, ouais, et comme tu dis, en fait, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est une équipe pour moi un peu compliquée à juger. Parce que si on prend le côté positif et qui pourrait tendre vers une bonne équipe, oui, il y a cette capacité à se remobiliser et à se relancer qui n'est pas donnée à toutes les équipes. On sait qu'il y a des groupes après cette défaite qui auraient pu plonger. Le coach aurait pu partir en cacahuète, tout ça. Et Brian Flores a remobilisé tout le monde. Ils sont re-allés de l'avant. Donc ça, c'est le côté bonne équipe. L'autre côté bonne équipe, alors beaucoup leur reprochent les 7 victoires qu'ils ont. C'est vrai que c'est contre des équipes assez faibles. Maintenant, on le voit en NFL semaine après semaine. Tout le monde ne bat pas les faibles, et battre les faibles, c'est aussi le signe d'une bonne équipe en NFL. Battre les équipes plus faibles que soi. Donc, j'ai du mal à leur reprocher le fait de prendre les victoires qu'il y a à prendre. Tu vois, je veux dire, semaine après semaine, on tape des fois sur des Chargers irréguliers, sur des Vikings irréguliers qui vont perdre, et on dit, et pour Miami, ça compterait pas le fait de battre les petites équipes. Donc, bon, là-dessus, voilà. Mais après, comme toi, et je pense, comme toi, je sais pas, mais c'est vrai qu'aussi, malgré tout, on n'a pas encore vu de grands matchs de Miami, de matchs vraiment fondateurs où tu dis, OK, c'est une grande équipe, quoi. Enfin, c'est une très bonne équipe.
En fait, pour moi, c'est une bonne défense.
Oui.
Voilà. C'est une bonne défense et une mauvaise attaque.
C'est une...
Je simplifie à mort, hein. Mais ils sont 10e sur les points encaissés. C'est l'équipe qui réussit le plus de sacs en NFL. Alors, ils ont bien été aidés par New Orleans pour remonter dans le classement. Mais 45 sacs, leader en NFL. C'est une très bonne défense, très bien menée. Après, c'est une attaque. Je dis mauvaise, c'est pas péjoratif, c'est vraiment factuellement sur la production. C'est parce que c'est une attaque qui a des lacunes. C'est-à-dire que ils ont une ligne moyenne, ils ont un jeu au sol affreux, ils ont un quarterback moyen pour le moment.
Oui, voilà. Oui.
Je ne dis pas qu'il va pas progresser. Encore une fois, je sais que tu as Tagovailoa, c'est un sujet de débat éternel, mais il est moyen pour le moment. Il y a pas une explosivité folle, quoi. Il y a zéro explosivité dans cette attaque. Et pourtant, avec Jalen Waddle, il pourrait lui en lancer plus en profondeur, a priori. Donc, c'est une attaque qui aujourd'hui est encore un grand chantier. Et je dis pas que ce sera pas une très bonne équipe l'an prochain s'ils draftent bien et qu'ils rajoutent des bonnes pièces en attaque. Mais avec leur ligne, avec leur jeu au sol, bah forcément, ils mettent beaucoup de pression sur un quarterback qui est lui-même en développement. Donc
t'as raison, c'est une attaque en chantier. C'est là le principal facteur X, le principal tout ce qu'on veut du côté de Miami, c'est comment cette attaque est capable de se développer d'ici la fin de saison pour accrocher les playoffs. Et voilà, parce que tu l'as bien résumé, hein, la ligne offensive, moi je sais même pas que je la trouve moyenne, c'est que je la trouve vraiment pas bonne. Comme tu dis, il y a peu d'armes. De mémoire, Tagovailoa, cette saison, c'est un seul touchdown de plus de 10 yards dans les airs. Donc, il n'y a pas de jeu en profondeur. Ce qui, en NFL, à l'heure actuelle, ne pas être capable d'attaquer dans la verticalité, la défense adverse, c'est jamais très bon signe, hein, parce qu'il y a un moment, faut...
Là, il ne peut pas dire qu'il n'a pas les armes. C'est-à-dire que Parker et Jalen Waddle, oui, si tu veux, dans son profondeur...
Elles y sont. Après, c'est toujours pareil. C'est entre lui qui ose pas, son coordinateur offensif qui ose pas lui faire faire, et la ligne offensive qui lui donne pas le temps. Je pense qu'on a un mélange des trois qui sont pas très positifs à l'heure actuelle. Comme toi, hein, moi, je suis pas persuadé qu'à l'avenir, ce soit pas une bonne attaque qui se développe avec les bonnes pièces. Hein, mais c'est vrai que là, c'est juste. Maintenant, dans cette AFC, malgré cette justesse, ça pourrait suffire à aller chercher une place en playoff. Ça va être compliqué. Le calendrier est pas simple.
Alors, ce match, justement, est intéressant contre les Titans. C'est pour ça qu'on l'a mis en affiche. Hein. Les équipes, on a dit qu'ils avaient battu des équipes mauvaises. Ils ont battu Texans, Ravens, Jets, Panthers, Giants, Jets, Saints sans personne. Donc, en effet, le match, il est intéressant parce que les Titans, c'est peut-être la meilleure équipe qu'ils affrontent depuis les Ravens. C'est même sûrement la meilleure équipe qu'ils affrontent depuis les Ravens, en effet. Et je disais, Miami, c'est bonne attaque, bonne défense, attaque moyenne. Tennessee, c'est moyen-moyen en ce moment. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe très moyenne, mais très bien coachée.
Ouais.
Donc, il s'en sort à chaque fois.
Sort de bon test. Ouais, complètement. Il y a eu le retour de Edgy Brown, hein, qui a fait vachement de bien du côté de Tennessee sur le dernier match, là où vraiment on a vu la différence en attaque quand il est là ou pas. Donc, ça va être un bon test pour Miami. Et de toute façon, c'est un test qu'ils sont obligés de réussir s'ils veulent aller en playoff. Hein. Va falloir aller la chercher. Donc, ils n'ont pas tellement de choix non plus. Ils peuvent mettre de la pression sur Ryan Tannehill. Miami court pas, mais enfin, la défense, j'allais dire, la défense de Tennessee est bonne contre la course, mais vu que Miami court pas, de toute façon, je suis pas sûr que ça change grand-chose au final. Ça va être à Tagovailoa d'aller chercher le match.
Ouais, c'est des drôles de match-up parce que tu disais de Tannehill, il a parfois été mis sous pression cette année, il a parfois pris des gros bouillons, donc ils ont les moyens de l'embêter.
Ah oui, complètement. Ils ont les moyens de l'embêter, ça c'est sûr. Avec leur pass rush notamment, ils ont des cornerbacks qui ont bien, bien redressé la barre hein, du côté de Miami aussi. Il y a AJ Brown en face, mais si tu arrives à le double teamer, il n'y a plus grand-chose d'autre non plus à surveiller.
C'est ça, Julio Jones liste Covid au moment où on se parle, Ben Dupri en défense liste Covid au moment où on se parle. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de dire, l'attaque de Miami sera une sorte de facteur X.
Ouais,
Mais du coup,
complètement.
j'ai du mal à voir. De toute façon, j'ai l'impression que c'est match à petit score, quoi qu'il arrive. Parce que Ryan Tannehill et l'attaque de Tennessee vont souffrir, vu que même de toute façon, sur la qualité, il leur manque du monde.
Oui, non, mais t'as raison, ils vont souffrir parce qu'ils l'ont fait toute cette saison. Ils n'ont plus vraiment de jeu au sol et on sait à quel point dans le playbook le jeu au sol et la capacité de Derrick Henry à
Alors,
affronter les défenses.
je suis pas tout à fait d'accord. Il reste quatrième attaque au sol de la ligue et de temps en temps,
Tu vois, il reste quatrième, mais je ne sais pas à quel point la stat est gonflée par le début de saison de Derrick Henry, quoi.
Alors, il y a un match énorme de Donta Foreman à 200 yards aussi,
Ouais,
il
qui
y a
doit
2-3
aider.
semaines,
Ouais,
qui fait bien monter.
dans le détail.
C'est un peu les montagnes russes en ce moment, en
Ouais,
fait.
c'est bon. Ouais, je sais pas. Franchement, ce match-là est pas.
Non, mais après, tu vois, je regarde sur les derniers matchs, il marque 20 points, 13 points, 20 points, 13 points, 13 points. Tu vois, c'est plus
Et
une très
ça,
bonne, très grosse attaque, quoi.
13-15 points, je pense que l'attaque de Miami peut aller les chercher, hein, les
Oui.
15-20 points. Sincèrement,
Alors,
je les vois pas perdus à ce point-là en attaque, tu vois.
et ben, moi, j'allais te dire au moment du prono, mon facteur X, c'est si les Titans se mettent 25 points.
Ouais.
S'ils vont en mettre 25, en gros, ça peut le faire. En dessous de 20, autour de 20, c'est pour Miami, quoi.
Ouais, je te rejoins globalement là-dessus.
Et ça le rend très difficile à pronostiquer.
Ouais, ça le rend difficile parce que la dynamique, elle est un peu plus du côté de Miami malgré tout. Malgré le fait que ce soit des équipes un peu plus faibles qu'ils aient rencontrées, il y a quand même une confiance, il y a du progrès en plus, il y a du progrès. Alors que Tennessee,
Ouais, mais je veux
là,
pas semer
là...
le doute, mais toutes les séries s'arrêtent aussi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis ça joue à Tennessee. Bon, c'est jamais
Ça.
facile à l'extérieur, hein.
C'est ça. Donc c'est pas. Il est dur, hein. Moi, je t'avoue que comme je suis derrière toi au prono, je pense que je vais juste prendre l'inverse de ce que tu prends.
Ouais, putain, je sais pas quoi faire sur celui-là. Écoute, je vais aller sur la surprise Miami.
Eh ben alors je vais aller sur Tennessee. Je vais aller sur Tennessee, mais pas évident, hein. Franchement pas évident. Miami qui joue donc Tennessee et les Patriots en dernière semaine, donc ça va être très difficile pour eux d'accéder aux playoffs. Mais voilà, on l'a dit, ils ont les moyens, en tout cas au moins défensifs, d'y aller. Pour les autres matchs, on est parti sur les pronos. Les pronos de la semaine. Tiens, il faut que je sorte les scores parce que Raphaël va encore pouvoir pavoiser, je crois. La semaine 16, ça a donné quoi? Ça a donné 13 points pour Raoul qui signe la meilleure semaine. Oh, c'est plutôt une bonne semaine pour tout le monde. 12 pour Greg, Raphaël, Lucas, 11 pour Victor et moi. Bon, 11 pour pire score, ça va, on a fait pire. Du côté du classement général, 149 pour Lucas, 151 pour Greg, 154 Victor, 157 pour Raoul et moi. Et Raphaël a 4 points devant désormais avec 67,1% de bons pronostics, 161 donc pour l'instant. Les pronos, alors pas de match du jeudi hein, cette semaine, on est revenu à de la NFL Old School dimanche lundi, donc ça faisait
Rien.
très longtemps. Ça faisait très très longtemps. Bah, de toute façon, il y a eu des matchs du jeudi, les 16 premières semaines hein, maintenant. Donc voilà. Et la semaine prochaine, ce sera samedi-dimanche. Bah, c'est deux jours aussi, mais ce sera samedi-dimanche. Traditionnellement, la toute dernière journée de la saison régulière, il n'y a pas de match du lundi. Donc dimanche 2 janvier, on passe directement à 19h le dimanche. Buffalo Bills, Atlanta Falcons. Les Bills sont l'équipe qui prend le moins de yards dans toute la ligue contre Atlanta. Alors je sais que Kyle Pitts, c'est bon, mais...
Mais bon, Kyle Pitts c'est bon effectivement, mais on voit bien l'attaque d'Atlanta est trop limitée, la défense est en difficulté. Et après le match, vous en avez parlé mardi, mais après le match, peut-être pas démonstration, mais le gros match des Bills pour se remettre sur le devant de la scène, je vois pas comment Buffalo se plante sur celui-là, donc Buffalo.
Buffalo pour tout le monde. Bears, Giants. Match entre deux des coachs qu'on a cités. Je vais y aller sur la défense des Bears parce qu'ils sont meilleurs et qu'en face, je sais pas, ce sera Mike Glennon ou Jake Fromm du coup.
Ouais, Jake Fromm, sans doute. Comme tu dis, je vais aussi aller sur la défense de Chicago. New York qui a du mal à dépasser 10 points. Je pense que Chicago peut mettre plus que 10 points, donc Chicago.
Ah oui, alors attends, j'ai même pas. Je faisais les totos de points de Tennessee depuis quelques matchs. C'est vrai que ça doit être intéressant pour New York. Ça donne quoi? Ça donne 10, 6, 21, 9, 7, 10. Ouais, c'est
Ouais,
déprimant.
ouais,
C'est
ouais.
déprimant. Ils ont passé une fois les 10 points en 5 matchs.
Je
Voilà.
me demande en plus si sur celle-là, il n'y a pas un pick 6 ou un truc comme ça qui fait que
Ah,
c'est l'attaque, tu vois, je me demande même.
c'est tout à fait possible. Attends, ils ont marqué Ijapenny passe. Non, ils ont marqué trois
Ah,
touchdowns ce
bon, bah,
jour-là
je suis
contre les
méchant
Chargers.
alors.
Bon, voilà.
Mauvaise langue.
Après, il y en a deux qui sont bons le garbage time hein, parce qu'il y avait 37-7 et ils ont mis deux à la fin. Hein. On va peut-être pas non plus s'enflammer. Bears pour tout le monde. Bengals, Chiefs, ça aurait pu être notre affiche de la semaine. C'était la plus sexy. On s'est dit qu'on avait beaucoup parlé quand même de ces deux équipes. Donc, on a fait Miami et Tennessee. Les Bengals, c'est très fort, notamment en attaque. Est-ce qu'ils peuvent tenir? Parce que les Chiefs, c'est top 5 sur les points marqués et sur les points encaissés. Ils sont sur une énorme série. C'est un vrai bon test pour Cincinnati, là.
Ouais, c'est un sacré test pour Cincinnati. On l'a vu encore, hein, ils ont pas mal arrosé, notamment en profondeur là contre les Ravens. Ils ont profité des absences du côté de Baltimore pour ça. Kansas City est pas l'équipe qui défend le mieux le jeu en profondeur, donc Chase pourrait avoir des matchs assez intéressants. Et puis la ligne défensive de Cincinnati pourrait quand même mettre pas mal de pression sur Patrick Mahomes, hein, c'est assez intéressant. Ouais, ça peut être un vrai baume. Je pense que Cincinnati peut accrocher un peu en termes de scoring. Peut accrocher, mais malgré tout, je vois Kansas City aller un peu plus loin et la dynamique est vraiment très bonne du côté de Kansas City, donc je vais aller sur les Chiefs.
Ouais, les Chiefs également, ils sont sur 7 ou 8 matchs de suite. Je ne m'étais pas noté la stat, mais ça ne s'arrête plus de gagner aussi hein, du côté de Kansas City. Donc, pour le coup, je disais les séries s'arrêtent toutes. Celle-là, je ne vais peut-être pas être celui qui prédit son arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même, si je compte bien. Oui, 8 de suite pour Kansas City. Mais ça va être un beau match. Hein. Franchement, si vous ne pouvez en regarder qu'un à 19h, a priori, sans regarder trop la liste du reste, ça me semble être celui-là. Colts Raiders. Les Raiders, qui sont quand même une équipe moyenne maintenant, notamment contre le sol, ils ont perdu 22 ballons cette année, moins 9 sur les turnovers. Et je parle de sol et de turnovers, évidemment, c'est pas innocent. Hein. Les Colts ont volé 31 ballons, ils sont deuxièmes en NFL, ils ont un gros jeu au sol. Il me semble avoir les armes, même si pas de
Voilà.
Carson Wentz. Et c'est
Pas
ça
de Carson Wentz.
la
Ouais.
grosse intrigue du match.
Donc du coup, a priori, ça serait Sam Ellinger, titulaire au poste de
Oui.
quarterback. Et
Alors, je vais juste, je me permets, je te coupe juste pour une précision. J'ai un truc, c'est l'histoire de la quarantaine qui est réduite de 10 à 5 jours. Je me demandais si du coup c'est rétroactif ou enfin ça s'applique dès maintenant, je suppose.
Bah ouais.
Donc, si je compte bien, il a été mis sur la quarantaine mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Est-ce
Ouais,
qu'il
non.
pourrait sortir
Ouais,
dimanche
je crois
matin? Non,
pas.
ça
Non,
marche
non,
pas.
a priori, non.
D'accord. Bon, donc Sam Ellinger, issu de la fac de Texas. Samuel George Ellinger, né en 1998. Crois-tu en
Oh,
lui?
belle fiche. Je crois pas particulièrement en lui. Maintenant, je pense que de toute manière, Indianapolis va essayer de gagner le match au sol en donnant le ballon à Jonathan Taylor et ça pourrait suffire. Même si Las Vegas m'a un peu surpris la semaine dernière en défendant bien contre la course, contre les Broncos. Après, je crois que la ligne d'Indianapolis est encore un peu meilleure et que le jeu au sol est encore un peu meilleur. Donc, je vais aller sur les Colts pour ça. Mais ça pourrait être un match piège hein, pour Indianapolis face à une équipe des Raiders qui est. En fait, ce qui m'embête, c'est que les Raiders, malgré tout, hein, même s'ils ont battu Denver, encore une fois, offensivement, c'était pas casser trois pas, ça cassait pas trois pattes d'un canard. Donc, je vais aller sur Indianapolis.
Et Ellinger, c'est un choix du sixième tour, hein, je précise pour ceux qui ne le connaissent pas. Il était à la fac de Texas. Je suis en train de regarder ses stats universitaires. 26 touchdowns à la passe pour 5 interceptions et 8 touchdowns au sol. Ça m'inquiète un peu parce qu'en dessous de 53 touchdowns, je crois, à la passe par mois même. Hein,
par mois.
c'est pas un super prospect. donc je sais pas. Non, ça m'inquiète un peu. C'est clairement le genre de match où tu peux te flinguer bêtement. Mm-hmm. Je vais aller sur les Colts aussi parce qu'ils sont vraiment sûrs de leur identité et tout ça. Mais c'est vraiment pas une bonne nouvelle, quoi.
Non.
Et puis bah, là, pour le coup, sans jugement, ils font ce qu'ils veulent et tout. Hein, mais donc factuellement, Darius Leonard, Quentin Nelson et lui n'étaient donc visiblement pas vaccinés.
Pas vaccinés, oui.
Les trois, comment dire, les trois capitaines en plus, hein, je crois, de l'équipe. S'ils perdent ce match-là, ils se sentiront peut-être bien bêtes. Voilà.
C'est le risque.
Disons que moi, j'ai toujours un peu. Ça me fait toujours un peu sourire. Depuis le début de cette année, tu sais, ces sportifs NFL qui nous disent qu'ils sont prêts à tout pour gagner et que n'importe quelle blessure, ça leur fait pas peur, qu'ils joueront avec une commotion cérébrale parce que c'est pas si grave que ça. Et puis derrière, ils ont peur de la piqûre comme un gamin de 12 ans. Bon, et encore 12 ans, je suis généreux. Bref, pourquoi pas. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, pas de jugement. Colts, du coup, pour toi ?
Ah oui, quand même.
Allez, Colts pour tout le monde. Patriots, Jaguars, ils vont pouvoir se relancer, les Patriots, a priori. Les Jaguars sont la pire attaque de la Ligue, c'est pas beaucoup mieux en défense.
Voilà, t'as à peu près tout dit. Je vois pas dans quel monde Bill Belichick se fait avoir sur ce match-là en termes de coaching. Et comme tu dis, ils ont besoin de se relancer. Celle-là, ils vont la prendre par sérieux, on va dire.
Patriots pour tout le monde. Donc Saints, Panthers, les Saints ont une meilleure défense, mais il faut absolument des retours Covid en attaque quand même un peu, non? Parce que là, vu la tronche de leur attaque la semaine dernière, tu vois, la défense des Panthers n'est pas non plus affreuse, quoi. Donc,
non, elle n'est pas affreuse. C'est vrai qu'en fait, c'est ça le problème. C'est autant je vois bien la défense de New Orleans complètement bloquée, Cam Newton, Sam Darnold ou je sais pas qui. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus, mais comme tu dis, il faut quand même aller marquer des points. Et sur ce qu'on voit depuis deux semaines du côté de New Orleans,
c'est ça le problème, quoi. C'est que s'il faut marquer 10 points pour gagner,
alors la bonne nouvelle, effectivement, ce qui pourrait être effectivement la bonne nouvelle, c'est si New Orleans retrouve ses joueurs sur sa ligne offensive, parce qu'on a vu que c'est quand même ça qui a fait beaucoup mal aussi. C'est qu'Yannbou qui était, je crois, sur plus de 50% des snaps sous pression. S'il a un peu d'aide sur sa ligne, peut-être qu'il aura un peu plus le temps de développer un jeu aérien et qu'il pourrait aller chercher les points suffisants. Mais sans avoir de certitude sur sa ligne offensive, c'est un peu un risque, ce pari. Je vais quand même aller sur les Saints parce qu'ils sont à la maison en plus. Mais bon.
Ouais, c'est un match très difficile. Je vais rester sur les Saints aussi, mais je ne suis pas ultra convaincu. Les Jets contre les Buccaneers, ça sent aussi la remise en place du côté de Tampa. Alors, ils ont déjà gagné, mais je veux dire, ils vont remettre les Jets en place. Même avec des blessés, là, il y a une vraie équipe sérieuse. Enfin, ça ne va pas être Trevor Lawrence qui se met à bafouiller dans les dernières secondes, quoi.
Non, c'est sûr qu'il y a moins de chances que ça arrive avec Tom Brady. Donc non, ça va être assez, c'est assez solide à Tampa Bay de tous les côtés pour battre sans trop de problèmes New York. Enfin, clairement, je vois pas trop. Le seul truc qui pourrait être, c'est comme ils sont sûrs d'avoir le titre de division, c'est un petit relâchement, mais en même temps, tu peux encore essayer de prendre la première place au cas où Green Bay se plante. Donc non, Tampa va être sérieux. Donc victoire de Tampa.
Tampa Bay, Tennessee, Miami, donc tu as dit Miami, j'ai dit Tennessee. Washington, Philadelphie, les Eagles sont qualifiables pour les playoffs avec une vraie identité, ce que Washington n'a pas l'air d'avoir vraiment d'ailleurs en ce moment.
Non, ce que Washington a un peu perdu, on pensait en début de saison que leur identité c'était la défense, puis on ne voyait pas la défense, elle est un peu revenue, mais c'est un nouveau un peu perdu, on voit même que les joueurs se battent entre eux sur le banc de touche. Et puis offensivement, bah ça, c'est toujours le palmarès ambiant, mais on sait jamais trop quel Taylor et Nikita. Y a pas vraiment de jeu au sol, enfin pas tout le temps. Moi je vais aller sur Philadelphie parce que depuis le début de saison ils sont, enfin depuis la semaine 8 plutôt précisément, ils sont sur une assez bonne dynamique pour que l'identité offensive effectivement soit suffisante pour aller l'emporter dans ce genre de match.
Tout pareil, Eagles pour moi. Chargers, Broncos, on passe à 22h. Si c'est toujours Drew Lock, a priori, il n'y a pas de match. Si c'était Teddy Bridgewater, les Chargers sont quand même favoris. Donc, en plus, ils aiment. Alors, après, les Broncos aiment courir et les Chargers défendent mal la course.
Ah, ça, ils défendent très mal parce que quand on voit ce qu'ils ont pris contre les Texans et Rex Burkhead et qu'ils font passer pour.
Adrian Peterson.
Ouais, voilà, pour Adrian Peterson.
Grande époque.
Ouais, ça fait un peu peur hein, pour la suite, mais. Effectivement, je pense que Los Angeles va se reprendre et a toutes les armes, notamment offensives, pour faire mieux. Maintenant, ils ont tellement déçu face aux Texans que je mettrai pas ma main non plus à couper. Je vais y aller avec Los Angeles, mais attention, effectivement, il pourrait aussi se faire avoir une grosse défense à Denver, jeu au sol.
Ouais, Los Angeles pour tout le monde. San Francisco, Houston. Trey Lance pourrait être titulaire. Jimmy Garoppolo s'est blessé au pouce. Il est touché à un ligament. Allez, je me fais l'avocat. On va dire que je suis méga chaud sur Houston cette semaine. Et s'il y avait de la place pour les Texans?
S'il y avait de la place pour les Texans, pourrait y en avoir un peu en perturbant Trey Lance. On sait que San Francisco ne va pas jouer de la même manière avec Trey Lance. Et c'est pour ça que Shanahan, d'ailleurs, après la première blessure de Garoppolo, est finalement revenu à Jimmy Garoppolo parce que Lance n'était pas prêt. Donc, ça veut dire qu'ils vont affronter un quarterback rookie pas prêt à jouer ou pas prêt à être très bon. Donc, là-dessus, ça leur laisse un peu de place. Après, je trouve, par exemple, si on compare la défense de San Francisco et notamment son pass rush et la défense contre la course meilleure que celle de Los Angeles. Donc, j'ai un peu plus de mal quand même à voir l'attaque des Texans déborder San Francisco comme ils ont pu le faire face aux Chargers. Donc, je vais aller sur les 49ers. Mais bon, ça pourrait être un peu plus serré que ce qu'on aurait pu dire.
Bon, après, voilà, sur le papier, évidemment, hein, la défense des Niners, c'est plus forte. Ils ont plus de playmakers dans tous les secteurs. Mais voilà, surveiller ce que ça va donner. Je vais partir sur les Niners aussi. Ça pourrait être un match plutôt sympa. Ravens, Rams, qui sera le quarterback des Ravens? Alors, c'est la question hein, au moment où on se parle, entre Covid, blessure à la cheville de Lamar Jackson, etc., etc. La défense des Ravens... Après, la défense des Ravens souffre encore plus que l'attaque, au final.
Ouais.
Donc, contre les Rams, c'est quand même pas la bonne recette.
C'est pas la bonne recette. Il y a encore énormément de blessures, d'absences côté Baltimore. Hein. Je veux dire, le match contre Cincinnati, il y avait plus grand monde pour jouer. Quand tu vois comment ils ont eu du mal face à Jammer, à Chase avec leur défense, là ils affrontent Cooper Kupp. C'est pas forcément une meilleure nouvelle pour eux. Donc ça va être compliqué. Après, les Rams, heureusement qu'il y a la défense et Cooper Kupp, j'ai envie de dire, parce que depuis quelques semaines, Matthew Stafford, c'est... Ah.
Après, juste pour revenir sur les Ravens, sur la défense, on sait où ça va pas quand on regarde les stats. Ils sont meilleurs de la ligue contre la course, dernier contre la passe.
Oui,
je crois qu'il leur manque des cornerbacks.
Oui, là-dessus, c'est assez clair. Et même safety, d'ailleurs, il manque un peu tout le monde, mais... Je vais aller sur Los Angeles parce que voilà, il y a moins de blessures, il y a moins d'absents, mais franchement, Baltimore étant bien coaché, je me dis, enfin, ça pourrait être surprenant. Hein, et puis Stafford, moi, je suis pas rassuré par Stafford depuis 3-4 semaines. Donc,
bon, là, il a une occasion de se refaire. Hein. Les Rams pour tout le monde. Seahawks, Lions. Est-ce que les Seahawks peuvent aussi être inquiétés par Détroit? Parce qu'au final, ils ont perdu contre les Bears. Non, mais tu vois, genre...
Non, mais oui. Actuellement, Seattle peut être inquiété par un peu tout le monde. Clairement. Donc,
Parce que ça joue quand même solidaire et uni du côté de Détroit depuis quelques semaines. Non, mais c'est vrai, il y a un côté... Ouais. Voilà, non, ils sont là dans tous les matchs. On parlait de Houston, ils ne sont pas ridicules non plus, Détroit. Donc, voilà. Après, si DK Metcalf a le bon goût de se réveiller, évidemment, ça peut vite tourner dans le sens de Seattle, hein, mais... J'ai pas l'impression que ce soit non plus si facile que ça. Tu vois, on va pronostiquer les Seahawks, je suppose, tous les deux, mais.
Ouais.
C'est pas un carton, quoi.
Non, comme tu dis, effectivement, on va aller sur Seattle, d'autant plus que c'est à la maison, et voilà, mais. Ils ont tellement de difficultés offensives, Seattle, ces derniers temps, qu'on les voit pas marquer beaucoup de points. Et leur défense, alors, encaisse pas beaucoup de points, mais encaisse beaucoup de yards. Donc, face à Détroit, il pourrait se faire un peu surprendre. Après, bon, on va aller sur Seattle à l'expérience, mais ouais.
Allez, Seattle, Cowboys, Cardinals, 3 défaites de suite pour les Cardinals, ça pourrait quand même faire 4. Dallas est quand même plus convaincant en défense et en attaque en ce moment.
Oui, ils sont bien revenus là, sur le dernier match. Dallas est quand même très, très bien revenu offensivement, on va dire ça comme ça. Les Cowboys sont clairement sur la meilleure dynamique à l'heure actuelle. Il y a, comme tu dis, des deux côtés du terrain et peut-être même encore et même en meilleure dynamique en termes de coaching. J'ai envie de dire, ils sont peut-être plus inspirés sur le coaching que ne l'est Arizona à l'heure actuelle. Donc après, c'est dans ce genre de situation où Dallas nous déçoit ces dernières années. Hein, donc,
moi, j'allais dire l'intérêt du match, c'est de voir si Dak Prescott confirme la semaine dernière.
Oui. Ouais, je suis d'accord. Effectivement, c'est un peu ça l'intérêt. Est-ce que Prescott arrive à bien s'en remettre et Dallas s'est lancé définitivement là sur sa route ou ça retombe tout de suite un peu dans les travers? Et en même temps, Arizona, ils ont l'air d'être mieux quand ils sont en outsider que quand ils sont en leader.
Ouais. Moi, je vais sur les Cowboys.
Non, mais moi aussi, je vais aller quand même sur les Cowboys. Mais bon, vu les dernières saisons, ça pourrait être le match où Dallas tombe. Hein.
C'est vrai. Packers Vikings à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Ça peut être un très beau match. Victoire 34-31 des Vikings lors du match aller. Field goal en fin de match. Aaron Rodgers est toujours gêné par son orteil. Il s'en sort bien jusque-là. Mais voilà, ça peut toujours être plus difficile sur une soirée, surtout face à un rival de division. Je vais aller sur Green Bay quand même. Voilà, j'essaie de vendre le truc.
Oui.
Mais en vrai, hein, ça peut être un match serré.
Ah oui, ça peut être un match serré. On voit très bien que Minnesota se met souvent au niveau de l'adversaire et ils sont capables de produire un très beau match. Je vais aller à Green Bay. Avec Green Bay, c'est à la maison, etc. Mais bon, t'es pas à l'abri d'une grosse perf offensive de Minnesota et d'une bonne perf de la ligne défensive des Vikings. Bon, pourquoi pas, mais Green Bay quand même.
Les Steelers contre les Browns, ce sera le dernier match du lundi de la saison à 2h15 dans la nuit de lundi à mardi. Donc, deux équipes mal en point. Après, les Steelers tombent tellement des deux côtés du ballon en ce moment qu'on a du mal à les voir se reprendre.
Ouais.
Miles Garrett a mal aux adducteurs et est incertain. Ça pourrait être un très, très gros facteur.
Ça peut être un très gros facteur parce que quand on voit comment est en détresse la ligne offensive de Pittsburgh, s'ils n'ont pas Miles Garrett à gérer, ça leur retire une sacrée épine du pied quand même. Hein.
C'est sûr.
Donc c'est pas évident, c'est à Pittsburgh, Cleveland, on a cru qu'ils étaient pas mal contre Green Bay et puis il y a eu toutes ces petites erreurs, alors pas forcément aidées par l'arbitrage aussi, hein, mais bon, en NFL cette saison, voilà, c'est une constance. Je sais pas, tu vois, et en même temps, je me dis, c'est dans ce genre de match que l'expérience Roethlisberger, Tomlin...
C'est vrai aussi.
C'est aussi dans ce genre de match, alors c'est vrai aussi. Je suis un peu embêté, mais Nick Chubb était en forme contre Green Bay...
Moi je dirais Browns, mais
je vais aller avec Cleveland parce que Fancy peut-être quand même à Pittsburgh. Je vais aller avec Cleveland, mais
tu sais quoi, si tu joues les Browns, je vais jouer Pittsburgh.
Bah ouais, j'y vais avec Cleveland, mais je suis pas hyper convaincu là.
Je tente de reprendre un point, je vais jouer Pittsburgh hein, dans ce cas-là.
Pas la folie, ouais.
Cela nous donne tous les pronos de la semaine. On passe aux cotes. Les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet, évidemment. N'hésitez pas à cliquer les liens, ils sont sur le site et sur nos réseaux sociaux. Comment ?
Non, je dis que cette semaine, il y a beaucoup d'écart sur les
oui,
codes.
Oui, il y a des favoris très, très nets. Mais par contre, je vois, parce qu'on vient d'en parler, que les Steelers, ça de 26, du coup.
Ouais. Ah bah oui.
Les Steelers, ça de 26, ça fait sens. Les Browns ont attiré 82% des paris au moment où on se parle. Donc, c'est à 2,26 pour Pittsburgh. Ça en fait un. Qu'est-ce que tu vois d'autre?
Moi j'avais envie, j'ai parié sur Miami, donc j'irai bien vers Miami. Ils sont à 2,33.
2,33, c'est pas mal, ouais, en effet. Et puis, est-ce qu'on tente les Raiders contre les Colts du coup? Parce que c'est 2,98.
Ouais, quand même.
Ouais, c'est pas mal, hein?
C'est pas mal. Il n'y a pas de quarterback titulaire Indianapolis. Je suis pas hyper convaincu, serein, mais allez.
C'est un gros combiné. C'est un gros combiné. J'ai fait plus... Dans la vidéo réseaux sociaux Unibet de la semaine, j'ai fait plus conservateur. Donc, comme ça, vous aurez les deux versions. Steelers, 2,26. Dolphins, 2,33 contre les Titans. Et Raiders, 2,98 contre les Colts. Mais encore une fois, les Colts avec un quarterback rookie du 6e tour. Pourquoi pas. Et donc, ça fait, vous pouvez évidemment les jouer séparément. Et si vous voulez les mettre les trois en combiné, ça fait 5 euros misés, 78,46 euros de gains potentiels. Ouais, ça fait un gros combiné. Hein. Du coup, le YOLO peut être très, très YOLO. Les Texans, j'ai dit, est-ce que les Texans peuvent faire un truc contre les Niners? C'est 5,40. Hein.
Wow. quand même.
Je dis ça. Voilà. Alors, plus sérieusement, les Panthers contre les Saints dépeuplés.
Ouais, contre les Saints dépeuplés, suivant comment tournent les retours Covid. Ouais,
tu vois, dans un YOLO, les Panthers sont à 3,15.
Ouais.
Bon, les Lions contre Seattle, j'ai du mal à...
Ouais, j'ai quand même du mal à... Ça aurait été à Détroit, je t'aurais dit, allez, on le tente, là, à Seattle. Ouais.
New York contre les Bears, j'ai du mal.
Ouais, non, j'y crois pas. À la limite, bah, les Cards à 2,65, hein. T'auras pas souvent l'occasion d'avoir Arizona à 2,65, hein.
C'est vrai. Et donc avec Minnesota, avec comment dire, les Cowboys qui se font dessus.
Ouais.
Allez.
Et puis après, si on est vraiment un peu YOLO, on peut partir sur Minnesota et Kirk Cousins en feu à Green Bay à 2,98. Hein.
Allez, là on est dans du YOLO. Ah, je crois presque plus aux Texans.
C'est vrai.
Ouais, je crois presque plus aux Texans.
Bah, on peut aller sur les Texans si tu veux, mais.
Bon, alors là, moi je veux bien aller sur les Texans parce que c'est ma hype de la semaine.
Allez,
hein. J'ai mis du Davis Mills partout.
Ok,
et tout.
Ok, ok.
Et ça va faire exploser le combiné, je te le dis, parce qu'ils sont à 5,40. Donc là, pour l'instant, moi j'ai Steelers de 26, Dolphins de 33, Raiders de 98, Panthers 3,15, Cardinals de 65. Déjà, t'es à 5 euros misé, 671,19 € de gain. Si tu rajoutes à ça les Texans à 5,40, tu passes à 3 713,30 € de gains. Je pense que c'est le YOLO le plus élevé de l'année. On est clairement là sur un hype train de Davis Mills exceptionnel.
Celui-là, s'il passe…
Mais attends, 3 713 €, nous qui parlons souvent en loyer et tout, là, tu as même un logement d'une taille décente dans Paris.
Ah bah oui, en loyer au mois du
sur
coup.
Sur un mois,
ouais.
Tu n'as qu'un mois.
Ouais. Sur un mois, ça te fait un très beau logement. Ouais.
Tu peux habiter dans un 100 mètres carrés là, non?
En plus.
Ouais, 3000. Même plus.
Bon, tu peux, ouais, suivant les quartiers, ouais, tu peux aller plus loin. Hein.
Je sais pas, c'est quoi, c'est 1200, c'est un SMIC le 50 mètres carrés grosso modo.
Ouais, à peu près, ouais.
Donc, t'as plus de 100 mètres carrés. Ah,
ouais, suivant les quartiers, ça peut taper. Hein.
Allez, vous pouvez vous payer un mois dans le 16e arrondissement pour vivre comme un grand richou. Vous allez
Non, c'est nul, c'est rive gauche.
Ah oui, c'est vrai, Raphaël est anti-rive gauche, j'avais oublié. Bon, bah, vous prenez un loft dans le 18e à côté de chez Raphaël et puis voilà.
On ira boire des bières ensemble. Vous verrez, bien entendu, parce que là, vu les bons conseils.
Exactement. Ah, bah là, si vous le passez, je vais mettre 1 €, juste pour déconner. Attends, 1 €, ça fait combien? Encore une fois, jouez prudemment sur celui-là. 1 €, ça fait 742 € de gain potentiel sur ce combiné. Ouais, celui-là, je vais mettre 1 € dessus. si je prends, franchement, si je gagne 742 € grâce à ce combiné, je te paye une bière. Il n'y a pas de.
Ah, bah, je veux bien. Mais c'est quand même un combiné qui.
Ah non, mais c'est un YOLO. Hein. Franchement, si dans la même semaine, vous avez victoire Steelers, Dolphins, Raiders, Panthers, Cardinals, Texans, vu l'état actuel de certaines de ces équipes, c'est vraiment très osé. Voilà comment se termine l'épisode numéro 469 du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TheJeanActu en entier, @Raphaël _TDA pour Raphaël sur Twitter, @AlainMatei pour moi-même, twitch.tv/TDActu pour notre chaîne Twitch. Pour le programme, on se retrouve avec le podcast de l'équipe Draft samedi, avec la chaîne Twitch justement et le Fouteuil dimanche 18h. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Raphaël. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fouteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.